Bonjour et bienvenue dans Pastèque, je suis Tanguy Pastureux. Comment ça va ? Eh mais non, c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre, vous êtes des auditeurs. Lui par contre peut me répondre puisque c'est mon comparse, il est à côté de moi, il est rigolard, il a l'œil qui frétille la truffe humide. Alex Bizorek, bonjour.
Il s'est reconnu. Oui. Bonjour Tanguy Pastureux.
Alors quand je disais que les auditeurs on ne les entendait pas, c'est faux puisque vous êtes au cœur du dispositif Pastèque. C'est une émission de radio et un direct sur Twitch et là vous pouvez vous exprimer sur le chat avec Lulu. Bonjour Lulu.
Bonjour à tous les deux.
Alors cette semaine on aura bien sûr la revue de presse de Pastèque.
Ah, oui.
On va s'amuser. On va aussi recevoir Tanguy, pas moi, un autre, il y en a d'autres. Sur Instagram, c'est Yugnat999, c'est le premier mèmeur de France. Il fait des mèmes, vous savez, ces images virales qui, depuis le début du web, nous font marrer, mais nous font aussi parfois réfléchir. Et ça, c'est bien. Et tout de suite, Alex.
Ah bah ça, on ne change rien. Le top de l'actu.
Oui.
France Inter, le samedi soir, Pastureau Vizorek, c'est Pastèque.
Pastèque. Alors Tanguy, premier article.
Eh bien, j'ai un article qui va parler de la Sarthe. Vous connaissez la Sarthe, ce département formidable.
François Fillon.
Pas que, il y a aussi d'autres gens qui habitent là-bas.
Les Sartois.
Les Sartois. Et vendredi, j'ai joué dans la Sarthe.
En
milieu rural, dans une petite salle. Et là, je...
Pas au Mans.
Non, pas au Mans. Je refuse. Moi, je vais plutôt...
Je vais chercher
la ruralité. Oui, la ruralité transcendée. Et donc, j'ouvre la PQR, parce que je demande toujours à voir les journaux. Et là, je découvre que la Maison Laurent, qui est à Mézières-sur-Pontouin, dans la Sarthe, une vingtaine de kilomètres au nord du Mans, lance la première rillette au CBD de France. Voilà. Et là, je me dis, c'est formidable. Alors, tous les fans de rillettes, d'un coup, qui en ont mangé, se sentent mais hyper bien. Détendu, François Fillon est totalement détendu, sa femme Pénélope a les muscles tellement relâchés qu'elle ne peut plus tricoter, donc c'est un enfer. Le CBD, il faut dire et rappeler que c'est une substance légale, puisqu'il n'y a pas d'euphorisant là-dedans, il n'y a pas d'effet psychotrope, simplement on se sent un petit peu détendu. J'en ai testé, j'en ai fumé un moment, ça m'a strictement rien fait, j'étais toujours aussi tendu.
Mais il manquait la rillette.
Il manquait la rillette, et c'est le seul problème. Alors, les clients sont très contents. Il y en a un qui dit, c'est pour ceux qui sont malades, qui ont des rhumatismes, ça les calme un peu. André nous dit ça, il a acheté deux beaux pots de rillettes au CBD, depuis il va bien. 5,95€ le pot de 250 grammes au lieu de 4,80€ d'habitude, parce qu'il y a le CBD en plus.
Voilà.
Alors, la personne qui a créé ça, le boucher, Thomas Laurent, dit, on rajoute donc du CBD pour donner un petit goût herbacé aux rillettes, ça change un peu le goût, mais on garde toujours le goût de la rillette. Pour les intégristes de la rillette est préservée.
C'est du CBD bio ?
Oui, absolument.
Ça, on se demande sur le chat.
Voilà. Au départ, parce que le parcours est incroyable, Thomas Laurent voulait d'abord mettre du CBD dans des chipolatas, mais le temps qu'il ait cette idée, en fait, on sortait déjà de l'été.
En fait, c'est un mec qui veut juste prendre du CBD,
il cherche
toutes les excuses.
Voilà.
Roule-le et fume-le.
Donc il a fait ça. Donc il les a mises dans les rillettes, et si ça marche bien, dit-il, on verra pour les chipots l'été prochain. Et je pense qu'on peut aller plus loin. Merguez à la cocaïne, vous dormez plus pendant 4 jours après chaque barbecue, mais aussi les brochettes Crack Poppers Néocodion. Peut-être à tester, mais en tout cas, voilà, rappelons que le CBD, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et il faut savoir donc que du coup, ces rillettes au CBD ont une couleur verte. Voilà, à cause du CBD, à cause de l'herbe, elles ont l'aspect en fait de rillettes, mais déjà digérées.
Autant acheter des crapauds, on nous dit dans le chat.
Ouais. Ah oui, il y avait des crapauds à lécher là, oui, ça c'est vrai. Alors, Pastèque, c'est aussi toujours l'occasion de mettre un coup de projecteur sur des petits jeunes pleins d'avenir. Ici, le Huffington, on a parlé, mais pas mal de gens ont parlé. C'est un jeune garçon qui fait du football, il s'appelle Kylian Mbappé.
Ah oui, même moi je le connais.
Ah bah dis donc, vous êtes à la pointe.
Oh là là.
Et cette semaine, il est devenu héros en Ouzbékistan. Et là, vous allez me dire, mais comment ça peut arriver? On en parlera d'ailleurs avec notre invité, parce que c'est à nouveau la force de l'image. Il a marqué 2 buts contre le Danemark, et donc il a voulu mettre un tweet. Et il a mis cette photo-là de lui qui exulte et qui va vers les supporters français.
Et qui saute, littéralement, il est en l'air.
Voilà, il saute, il va vers les supporters français pour les remercier. Et donc, il y a beaucoup de drapeaux français, si vous voulez, vers qui il va. Et au milieu de tout ça, il y a un drapeau ouzbek. Et les drapeaux ouzbeks, c'est pas comme s'il y en avait à tous les coins de rue, si vous voulez. Et donc, ça a fait hyper plaisir aux gens d'Ouzbékistan d'avoir Mbappé sur la même photo que leur drapeau. Je trouvais ça amusant de voir à quel point, alors que vraiment il l'a pas fait exprès, et
non.
C'est la force.
C'est le drapeau qui se retrouve dans l'axe.
Parce qu'en vrai, il n'y a aucun lien entre Kylian Mbappé et l'Ouzbékistan, si ce n'est que je crois le salaire de Kylian Mbappé correspond à peu près au PIB du pays. Mais sinon.
Attendez, parce que l'Ouzbékistan, il y a du pétrole.
Et oui. Monsieur, tout au courant de tout. La géopolitique, c'est votre truc.
Il y a un dictateur.
Pieraski, vous savez, parfois je le sens un peu fatigué, je me dis, vous auriez peut-être une place à prendre.
Alors, c'est pas dur, il suffit, pour savoir où est-ce qu'il y a des dictatures, en fait, dans ces coins-là, il suffit de voir avec qui Gérard Depardieu est ami. Voilà, et donc là, vous déterminez à peu près qui est dictateur, de qui n'est pas dictateur, hein, tout simplement. Allez, on passe sur une autre nouvelle. Sid Action s'est relancé et les tubes des années 80 ont été revisités, figurez-vous, pour sensibiliser les quinquagénaires, puisque ils ne se protègent plus, et puis déjà, les plus de 50 ans se sont relâchés. Ce sont des shows du slip, hein, tout simplement. Ils font de plus en plus l'amour, mais voilà, ils se protègent de moins en moins. Une personne sur deux de plus de 50 ans seulement met un préservatif, même lors d'une rencontre passagère.
Je les connais,
désirable.
Moi, les plus de 50 ans.
Oui, je sais.
Je sais comment elles réagissent.
C'est pour ça que je commençais à rédiger votre biopic en direct.
Et donc, je leur dis, non, mais c'est
le problème, hein. C'est que 23% des découvertes de séropositivité du VIH concernent les personnes de plus de 50 ans. Voilà. Pourtant, ce sont des gens qui ont vraiment grandi avec les campagnes de prévention, Clémentine Salarié, aussi l'action, etc. Exactement. Voilà, donc il y a une campagne à laquelle participe de l'IO, donc des stars des années 80, donc l'IO, partenaire particulier Jean-Pierre Madère et Émile et Image, et Dave. Alors là, on n'est plus sur les sexagénaires, parce que quand même, pour moi, Dave, ce sont les années 70.
C'est vrai.
Alors, ils ont un peu changé leur titre, et ils les chantent, par exemple, Banana Split, c'est « Ça me déplairait pas, que tu m'embrasses, nanana, et qu'on aura brisé la glace, nanana, nanana, mais faut mettre la capote avant qu'on le fasse, banana,
oh,
banana. » Vous voyez, c'est chouette quand même, voilà, c'est chouette.
Et puis, si la fille vous chante ça, vous avez tout de suite envie de faire l'amour.
Alors, je vais vous faire le Dave, parce que c'est du côté de chez Swan,
ah, oui.
Mais refait. Tu souris à l'aventure au tournant de ta vie, mais ce serait fou de risquer de payer au prix fort l'appareil caché du danger dans les élans du corps. Bon, voilà, je le fais assez
mal.
Mais là, on réalise en fait que la version prévention sida est mieux écrite que l'original.
C'est bon,
mais attendez.
Elle est proustienne du côté de chez Swan.
Payer au prix fort la part cachée du danger dans les élans du corps, c'est Delph qui a écrit ça, mais que cet homme entre immédiatement à l'Académie française. Et enfin, partenaire particulier, partenaire bien protégé.
Ah, voilà. Rigolo.
Partenaire bien protégé et point E.
Je cherche partenaire bien protégé.
Voilà, écriture inclusive. Et ça fait « Toi qui sembles à la recherche de plaisirs illimités, rappelle-toi que l'aventure est amenée dans la sécurité. »
Voilà. Alors, je trouve.
Voilà, formidable. Je me permettais de le faire.
Écoutez.
L'aventure est amenée dans la sécurité, ça fait plus un truc de légionnaire, comme ça quand je chante.
C'est vrai, je trouve aussi.
Écoutez, très joli.
Voilà, donc les chansons des années 80 refaites pour le site d'action et on espère que ça va influencer les plus de 50 ans et leur dire de se protéger.
N'hésitez pas à vous protéger, surtout.
Oui, c'est
important.
Bien, c'est vrai, même à tous les âges. Hein. Dernier article avant de recevoir notre invité. Allez, il y a un vrai lien. Vous êtes cinéphiles tous les deux ?
Un petit peu.
Ok. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce film, Goncharov, un film de Scorsese des années 70, avec De Niro et Pacino, très beau casting, Harvey Keitel aussi.
Il est sorti ou c'est un inédit qui n'est jamais sorti ?
Il serait sorti et il a eu aucun Oscar en 74, malheureusement. Et c'est vrai que là, il sort un petit peu de l'oubli. Alors, je vous donne l'histoire, peut-être ça va vous rappeler les souvenirs de ce film. C'est à Naples, dans les années 70, un monde où l'Union soviétique aurait disparu et Goncharov, tueur russe qui gère une discothèque, tente de se faire une place dans le milieu du crime organisé. Et il a donc son ami, donc ça c'est De Niro, il y a son ami Hervé Kettel. Gene Hackman, donc c'est fou que ce film ne soit pas plus connu que ça. Et pour cause, c'est un fake.
C'est pas vrai.
Lulu, elle le savait. Elle laissait Tanguy se planter. Parce que j'aurais bien aimé que vous me disiez « Oui, j'ai adoré la scène. »
Non.
Mais oui. Et c'est arrivé, en fait.
Je l'ai pas vu.
Ça fait partie des trucs magistraux, je trouve, d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a... C'est parti d'une paire de bottes de Gomorrah et quelqu'un en a retiré tout un fil et puis est venue cette histoire et tout le monde s'est greffé dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit des bandes originales de ce film, il y a des gens qui ont écrit des critiques du film, il y a un dessinateur qui a redessiné ses scènes préférées de ce film qui n'existait pas, évidemment. Et donc, certains sont tombés dans le piège en disant « Oui, moi j'ai beaucoup aimé. »
Qui est à l'origine de...
Eh bien, on ne sait pas vraiment. Et c'est ça qui est assez sympa. Et donc, on en parlera, évidemment, avec notre invité Yougnat999 parce que lui, il a amené le même en France. Ça existait déjà pas mal en anglais aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est envahi de tout ça. Et donc, quand on voit des choses, on se questionne plus trop. Et je trouvais ça assez fou. Et puis moi-même, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit « Putain, j'aurais envie de le voir, ce film. » Enfin, voilà, on en parlera. Et on parlera de plein d'autres choses. Avec avec la légende d'Internet.
Allons-y.
Ben oui, c'est Lulu qui l'a annoncé comme ça. Donc, j'espère qu'il va bien le prendre, qu'il va pas s'enfuir, parce qu'il est quand même très jeune, hein, malgré tout. Plus jeune que nous, Tanguy, je vous le dis. Yougnat 999 sera avec nous après le disque. Rappelez-nous qui on écoute.
C'est Flavien Berger et qui chante D'ici là.
C'est flippant de te croiser là, dans la foule et dans la joie. Je fais comme si je te voyais pas. C'est peut-être la dernière fois. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. C'est à toi que je pense à chaque décollage. Geste secret, quand tout s'éteint, quand vient le soir, plus rien après, ton étreinte, que la mémoire. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. Tu te rapproches, tu me fais peur. Là, je ne suis que spectateur. Mais j'imagine que viendra l'heure de t'abandonner mon cœur. Quelle vie m'attend juste après toi? Je cherche, mais je ne sais pas. Je saurai un jour et d'ici là, je ne donne pas ma langue au chat.
France Inter le samedi soir, Pastureau Vizorek, c'est Pastèque. Pastèque.
Vous êtes sur France Inter dans Pastèque et notre invité est là, Tanguy.
Oui, et vous en avez marre de Tanguy, parce qu'il y en a déjà un que vous avez du mal à supporter et voilà que nous sommes deux désormais.
Ne dites pas que vous en avez amené un autre. Bonjour Tanguy 2.
Bonjour Alex, bonjour Tanguy du coup.
Bonjour.
Mais qui sur Internet était Tanguy 1.
Exactement. Oui.
Ouais. Lulu vous a vendu comme une légende d'Internet et je pense que c'est vrai en ayant vu ce que vous avez apporté. Au fond, aujourd'hui on utilise ça énormément, les mèmes. Vous nous expliquerez très précisément ce que vous pensez que c'est, mais c'est vraiment un concept compliqué à...
C'est très large en fait.
Ouais, donc, c'est large.
C'est compliqué à expliquer. À chaque fois, je me dépatouille comme je peux pour expliquer, mais c'est très très large.
Mais à définir en deux mots comme ça pour quelqu'un qui ne verrait pas ce que c'est.
Pour les parents, il faut dire image marrante. En deux mots.
Okay. Image marrante, mais ça peut être vidéo marrante aussi. GIF, ça peut être un.
Et en plus, c'est pas forcément marrant, donc c'est ça le pire.
Mais c'est viral en tout cas.
Ouais. Enfin, non, c'est pas viral justement. Il y a une différence, c'est que le viral, c'est juste copier-coller. Toujours, enfin, ça part comme ça, c'est toujours la même chose. Alors qu'un mème, en fait, il y a une appropriation à chaque stade.
D'accord.
Du coup, c'est la vraie différence, en fait.
D'accord.
Pour faire très simple, si on s'abonne à votre compte Instagram, on va tout de suite comprendre ce que c'est qu'un mème et on va voir ce que c'est.
Ça sera plus simple, en fait.
Et on va donc le donner, Yougnat, Tanguy, à l'envers, 999. Ça, c'est votre nom de...
scène.
Ouais, exactement, parce que vous séparez bien le personnage que vous êtes dans la vie. Vous avez un vrai métier, on n'en parle pas, vous n'êtes pas là pour ça. Et vous avez aussi ce compte... C'est rigolo parce que la plupart des gens qui sont là, leur nom, ce qu'ils sont, c'est leur instrument de travail.
Ouais.
Pour vous, est-ce que c'est un hobby? Est-ce que...
C'est un alter ego, en fait.
Exactement.
Je pense. Okay. C'est plus un alter ego. Je suis pas comme ça du tout dans la vraie vie. Ouais, c'est quelqu'un d'autre. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Vous savez, vous êtes un peu un humoriste, finalement. Ouais. Parce que les humoristes sont beaucoup comme ça.
Ouais. Hein, mais sur plein d'endroits, et on en reparlera, il y a un vrai lien avec notre boulot à nous. Mmh. Mais merci infiniment d'être là parce que vous êtes rare. J'imagine que vous choisissez quand vous parlez parce que vous préférez vous exprimer par votre art, entre guillemets.
Ouais. Et puis en plus, encore une fois, c'est parce que je suis pas super à l'aise en société. Mmh. Du coup, c'est toujours très compliqué de parler de ce que je fais parce qu'en fait c'est quelque chose de très personnel. Du coup j'ai un peu de mal à en parler comme ça en public.
Vous découvrez le même chez les Anglais, enfin, ouais. Chez les anglophones plutôt.
Mmh. Bah, c'est là où c'est, enfin, comme Internet est très anglophone de base, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de contenu anglophone, donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Il y a beaucoup aussi sur en France de contenu, mais c'est très franco-centré en fait. C'est des blagues qui font marrer que les Français, éventuellement les Belges, les Suisses. Oui. Enfin, mais c'est très petit comme audience, en fait.
Mais au départ, c'est ça que vous avez voulu faire. C'est de l'audience un peu internationale, nous le ramener à la culture un peu française. Parce que vous dites au début, j'étais très parisien dans ma façon de faire de l'humour.
Au début, moi, je le faisais pour faire marrer mes potes.
Ouais.
Enfin, les gens que je connaissais, ou enfin, dans les mêmes cercles. Donc, j'avais pas du tout une volonté, en fait, de créer une audience, de faire un truc qui dépasse les frontières. Au fur et à mesure, en fait, comme ça a grandi, je me suis adapté. Et du coup, j'ai adapté mon propos et tout ça. Donc, c'était pas une volonté de faire quelque chose qui parle au plus grand nombre à l'époque.
Mais vous avez un vrai métier à côté, donc... De temps en temps, quand vous faites votre métier, vous vous dites « Tiens, là, j'ai une idée, je fume une clope, je prends ma pause. »
Exactement, exactement. Après, parfois, j'en ai déjà préparé le matin, quand je suis dans le métro, dans les transports. Enfin, tous les moments de flottement sont une occasion, en fait, de faire un même.
Voilà. Mais vous avez vraiment ça, un peu, je crois comme nous. C'est-à-dire que vous avez la vanne qui vous vient et vous avez envie de...
Bah, j'ai envie de la partager
ça. Et pourquoi ne pas en avoir fait un... Parce que vous dites qu'au fond, vous utilisez assez peu votre communauté. Je pense que vous faites assez peu de placement de produits, ces choses-là. Je ne sais pas à quel point vous rentabilisez ça, ou c'est purement votre plaisir.
Bah, en fait, le truc, c'est que je ne veux pas reposer uniquement sur ça, parce que je ne sais pas si c'est une solution pérenne. Et du coup, en fait, ça me va comme un hobby.
Alex, sur le chat, je vois que Lulu est en train de discuter avec des gens, et justement, de l'émergence du mot même, et d'où ça vient, et l'histoire, etc. Il y a plein de trucs intéressants qui se disent.
Alors, pour le coup, il y a aussi pas mal de questions. D'où vient l'idée de faire des textes en franglais?
Franchement, au départ, c'était vraiment pour me démarquer de ce qui se faisait en France, où c'était français ou anglais. C'était un peu aussi pour me moquer de la Startup Nation.
Ouais. Par exemple, vous commencez un truc en disant « me » quand je fais ça, quoi.
Mais ouais, en fait, c'est juste que c'est rentré dans l'identité, en fait, de ce que je fais. Mmh. Et maintenant, je peux pas vraiment en sortir.
C'est intéressant, cette histoire de... Mmh. Comment dire, vous avez choisi une posture, mais vous dites quand même que c'est politique, les mêmes que vous faites. Enfin, comme des blagues pourraient être politiques si on les fait sur
En fait, ce que je dis tout le temps, c'est que le même en soi n'est pas politique. C'est un médium. C'est la personne qui est derrière qui peut insuffler un message, qu'il soit politique ou non. En l'occurrence, moi, je pense que ça sent un peu ma sensibilité dans ce que je fais. Mais j'essaie de faire ça avec parcimonie parce que les gens sont déjà saoulés de messages politiques et de tout ça toute la journée. Donc, je pense qu'il y a aussi de ma part, un devoir de réserve et de ne pas être trop dans la
vidéo. Il y a beaucoup de contenu. Et moi, je trouve que ce qui est bien avec le même, c'est qu'en une image, avec parfois quatre mots, on arrive à susciter un rire. Et ça, c'est très, très fort, parce que c'est de la concision pure. Et je suis très admiratif de ça. C'est comme les haïkus, vous savez.
Par rapport à vos chroniques trop longues, vous voulez dire.
Alors, vraiment. Moi, je veux toujours en mettre plein. Ça déborde parfois. Et c'est pas nécessaire, en fait. Et là, vraiment, les mêmes, je trouve ça assez incroyable.
Je suis d'accord, mais alors c'est rigolo parce que, nous, on a une façon de réfléchir, vous dans vos chroniques, moi aussi. Et parfois, je me dis, mais j'aurais jamais trouvé cette façon-là d'écrire une vanne, quoi.
Ouais.
Et comment vous avez développé ça? C'est en consommant beaucoup d'autres gens.
C'est beaucoup de consommation de contenu Internet, ouais. Je passe beaucoup de temps sur Internet.
Trop,
non, je sais pas, je pense pas. J'essaie de pas trop regarder mon téléphone, en tout cas. Mais non, en fait, dès que j'ai un moment de libre, je vais aller sur Internet, je vais consommer des mèmes.
Et vous allez me dire, tiens, qu'est-ce que moi je peux ajouter à ça?
Exactement, c'est marrant cette vidéo, c'est marrant cette photo, c'est marrant cette vanne. Moi, je pourrais le faire avec une image qui parle aux Français ou qui parle à ma communauté. Donc, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de curation. Et après, c'est l'appropriation des contenus que j'ai consommés.
Alors, on va faire un quiz, parce qu'il y a des quiz dans Pastèque, et c'est un quiz sur les mèmes cultes d'Internet.
Oh là là,
vous êtes un mèmeur professionnel, donc si je vous décris ces personnages devenus célèbres et viraux sur le net grâce aux mèmes, ça ne devrait pas être compliqué, on joue tous ensemble. Nous, avec le chat, on y va. Attention, je suis une fillette qui se tient devant une maison en flammes dans la petite ville de Maybane.
Ouais, je vois, et le mème original a été vendu en NFT, je crois,
c'est ça. Centaines de millions d'euros. Ça a été fait aux États-Unis en 2005, j'esquisse un sourire inquiétant. ans, comme si j'étais à l'origine de l'incendie. J'avais 4 ans quand mon père Dave a pris cette photo. Mon visage a fait le tour du web, trafiqué sur une multitude de scènes de catastrophes, de la Seconde Guerre mondiale aux catastrophes naturelles. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Je suis donc Zoé Roth, ou The Disaster Girl, la fille du désastre.
Mais évidemment, voilà. L'intérêt, c'est que chaque fois, on change le texte.
Oui.
L'image, elle reste.
Il y a même, enfin, je me rappelle, quelqu'un avait fait un montage avec, à la place de la tête de la fille, il y avait Macron, je crois, l'État de la France, quelque chose comme ça.
Oui, parce qu'évidemment, on peut changer aussi les parties du même. En fait, tant qu'on a la référence commune, on peut s'en éloigner.
Oui, c'est ça, c'est que c'est très facilement, en fait, modifiable. Même parfois, juste des aplats de couleurs peuvent faire penser à un même. Il y a des trucs qui sont identifiables extrêmement facilement.
Allez, attention, c'est peu de choses à mon sujet, si ce n'est que j'ai été photographié à Gérone, en Espagne, par le photographe Antonio Guillem en 2015. Je porte une chemise à carreaux, je me retourne BA sur une jeune femme dans la rue, tandis que ma petite amie s'offusque de mon comportement. Comme si en couple, on ne pouvait plus mater des culs, m'a dit Alex Vizorek. Ce n'est que 2 ans plus tard que cette scène est devenue un mème populaire, à tel point qu'il a été interdit d'utilisation dans une publicité d'une société de recrutement. Je suis...
Distracted Boyfriend.
Voilà, le petit ami distrait, voilà, qu'on connaît tous.
Génial.
C'est un des mèmes les plus célèbres. À chaque fois qu'en politique, il y a un ralliement, par exemple, on a, mettons, ici Eric Ciotti, ici François Baroin, puis on a Laurent Wauquiez de l'autre côté avec un montage. Et moi, ça me fait rire à chaque fois parce que c'est tellement drôle.
Et alors, il y a compétition entre les gens sur, par exemple, on va dire une image que tout le monde a utilisée. Il y a un peu compète pour se dire, c'est moi qui ai fait la meilleure vanne.
C'est, en fait, c'est compliqué de dire qu'il y a une compète. Il y a forcément les gens. Vont regarder. Non, mais je sais pas, les gens vont regarder ce que les autres ont fait, mais comme tout le monde n'a pas forcément le même message à passer, c'est compliqué en fait de comparer.
Attention, clairement, si vous n'avez jamais vu cette vidéo auparavant, c'est que vous vivez sans connexion internet depuis toujours. On est en 97, 26 secondes, une caméra de surveillance et un type cliché de l'employé de bureau dans un petit open space en train de se déchaîner sur son ordi, l'Adrien Quatennens des ordi. Une baffe dans l'écran, une claquasse sur le clavier. Cette séquence destructrice a fait le tour du web et donc du monde, devenant l'une des toutes premières vidéos virales de l'histoire. À l'origine, filmer cette scène a été pensée par le boss de Loronix, société d'électronique du Colorado, afin de se faire remarquer auprès des clients. C'était un fake, malheureusement. Et je suis, est-ce que vous l'avez?
Je l'ai utilisé il y a quelques jours en plus, mais je sais pas comment ça s'appelle.
Je sais, j'ai regardé. Le même est connu sous le nom de Bad Day, et c'est en fait Vinny Licciardi, le monsieur. Vous savez, c'est ce monsieur qui éclate son ordinateur.
De sucre.
Qui, alors, c'est le premier truc qu'on a vu sur Internet il y a peut-être 20 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez mis, vous, comme légende?
Je sais plus. Enfin, le problème, c'est que je poste mon truc et j'ai oublié ce que j'ai mis après.
Ouais. Allez, alors, pas plus récent. J'apparais pour la première fois le 22 septembre 2012, quand le frère de ma maîtresse me prend en photo et la rediffuse sur Reddit. Je suis devenu un mème célèbre en raison de mon expression faciale boudeuse. Indice, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Je dois en réalité ma mine renfrognée à un anisme félin. Voilà, désormais, je ne survis que sur Internet, puisque je suis morte. En 2019, je laisse derrière moi des vidéos, photos, des films, du merchandising, des firmes et plus de 100 millions de dollars à mes maîtres. Je suis...
Grumpy Cat.
Grumpy Cat,
bravo. Tardar Sauce, plus connu sous le nom de Grumpy Cat. Il s'appelait Sauce Tartare, ce pauvre chat. C'est voilà, il est mieux sous le nom de Grumpy Cat.
Oui, hein,
et regardez comme il ressemble à certains des amis que tous on a. Voilà, on a tous connu quelqu'un qui ressemble à Grumpy Cat.
Les gens sont bons, les gens ont trouvé.
Oui, bah bien sûr, c'est une star d'Internet, Grumpy Cat. Voilà.
100 millions quand même.
J'ai deux questions dans le chat. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ou un humoriste avec les mèmes? Et quel est votre réseau social préféré?
Le réseau social préféré, c'est la vraie vie.
C'est bien de l'entendre dire, parce qu'on a que des gens du web à votre place. Et je pense que tout le monde n'aurait pas répondu ça.
Après, est-ce que je me considère comme un artiste ou un humoriste? C'est un peu compliqué. Je me considère pas vraiment comme quelque chose. Enfin, je suis un créateur de contenu. Idéalement, c'est vrai que j'aimerais être considéré comme un artiste, mais c'est pas moi qui décide en fait. On est un artiste parce qu'on est considéré comme tel. À voir si les gens me considèrent plus comme un créateur de contenu, un espèce d'influenceur, un artiste ou un humoriste, ça je sais pas trop. Ça va dépendre des gens en fait.
Merci infiniment Yougnat999 d'être resté avec nous et de nous avoir fait revoir ces 10 dernières années de web par les mêmes. Qu'est-ce qu'on écoute, Tanguy Pasturo?
On écoute La Femme, j'adore La Femme, et tout est vaste.
On adore tous La Femme.
Mais enfin Alex.
Por la primera vez yo siempre sentí que tú pudieras ser todo para mí. Ahora no quiero escuchar ni saber más de ti. Cómo sufrí, pero yo sé que el amor es así. Todas las veces que me encuentro aquí.
muy lejos también. Después del dolor, después de todo, todo más fue mejor. No te quiero, mi amor, ya se marchitó.
Samedi soir, Pasturo Vizorek, c'est Pastèque. Pastèque.
Vous êtes sur France Inter dans Pastèque, abonnez-vous à notre chaîne Twitch, puisque si vous arrivez, là vous tombez par hasard sur cette émission, en fait, nous l'enregistrons pendant une heure et demie sur Twitch le jeudi matin, on parle avec vous, on rigole beaucoup, on fait beaucoup de bêtises et on dit des trucs nuls. Et c'est pour ça que ça passe à l'antenne le samedi, on ne vous garde que le meilleur, mais quand même soyez là avec nous parce qu'il se passe des choses... Tanguy, le magazine Géo parle de... Il y a un sport qui m'a échappé, qui s'appelle le lancer de panse de brebis.
Ah oui, bah, la panse de brebis, c'est le plat national.
Voilà, c'est ça. Et donc, lancer de panse de brebis.
On appelle ça le haggis, je crois.
Eh bien, exactement, ouais. Haggis. Vous savez haggis, ça haggis, ou, ouais. Plat traditionnel écossais. C'est une discipline. Alors, je vous donne vraiment les règles, si vous voulez pratiquer chez vous, qui consiste à balancer la panse de brebis le plus loin possible depuis un fût de whisky. Et vêtu d'un kilt. Donc c'est vraiment
c'est très normal.
Alors, c'est
oui,
très précis.
Il y a des règles.
Très écossais. Petite idée du record. Donnez-moi des chiffres. Vous lanceriez à combien la
pour moi, mais je suis nul en lancer.
Je sais pas, 60. Non, ça fait beaucoup. 60 mètres. Non, je suis fou.
4 mètres 5.
Non, vous êtes bon. Moi, j'aurais. Alors, non, mais là, regardez, on est dans.
Non, je dirais aller 50 mètres.
Ah, non, vous êtes bon. 66 mètres.
66 mètres. Bien.
Mais c'est fou. Lorne Coltard, bien sûr. Il a un nom aussi de.
Il a tellement un nom d'écossais.
Il a un nom d'écossais. Tellement. Et donc, en fait, on se dit, mais en fait, c'est historique. Ça fait des années, on imagine Mel Gibson quand il était en.
Oui, dans Braveheart.
Dans Braveheart. On l'imagine lançant.
Lançant des panses.
Des panses de brebis. Ouais. Eh bien, tenez-vous bien que cette tradition. Séculaire écossaise.
Ouais, remonte à 78,
est un canular.
Oh, c'est
pas vrai. De 77.
Ah, oh, bah, je suis bon sur l'Écosse.
Et ouais, vous êtes vachement bon. Et donc, c'est un attaché de presse, peut-être bien de la marque qui vend des panses de briques, qui avait annoncé qu'il relançait ce sport traditionnel ancestral écossais. Et tout le monde a suivi. Et,
c'est génial.
Oui, c'est assez génial.
Meilleur attaché de presse.
Exactement. Et en 2004, coup de théâtre, Robin Dunsis avoue qu'il l'a inventé. Ce qui devait être une petite blague un peu sans lendemain est devenu aujourd'hui, maintenant, matière culturelle.
Mmh. Ils le font réellement, alors.
Et ils le font réellement, oui, chaque année, mais il y a vraiment le champion.
C'est vraiment du gâchis de nourriture, quand même, non?
Bon, après, on peut le manger. Hein,
Ouais, tu débêtes, quand même, pour les panses. C'est un peu dommage de les tuer pour finir par lancer les panses, non?
Mais après, on les mange, non?
Bah, je sais pas dans quel état on les récupère.
Bah ouais, c'est
avec 60
ça.
Mètres de distance.
Oui, c'est pas faux.
Non?
Vous lancez pas la brebis.
Mais non, on lance
non,
la panse.
Non, mais la panse.
Oui, mais suppose que la brebis, elle a déjà été mangée ou ils en ont fait
oui,
quelque
non,
chose.
Oui, non, mais la panse elle-même, elle va traîner oui, dans vrai. La boue et dans l'herbe et tout.
Oui, c'est vrai.
Alors, Tanguy.
Frédéric Fromet. Manuel Valls dans Le Point. Manuel Valls, mais oui, il a 60 ans.
Vous suivez sa carrière.
Mais ce n'est pas ce pourquoi je vous en parle. Non. Il va pas bien.
Qu'est-ce qu'il a trouvé
Vous savez, dans le baromètre du point, il est dans la catégorie en panne. Ça fait longtemps qu'il est en panne. C'est une immense panne.
Il est au paddock depuis un bout
de temps. Oh là là, mon Dieu. Il a été condamné à payer 270 000 euros pour financement illégal de sa campagne municipale à Barcelone en 2019, où il avait obtenu en plus 13% des voix. Voilà. Donc, et ça, c'est marrant parce qu'on n'en parle pas du tout une fois que la personne a disparu des radars.
Ouais,
270 000 euros, c'est pas rien.
C'est qu'il a essayé de couillonner
mais
le
monde. Mais surtout, financement illégal de sa campagne municipale. Je sais pas, ça marque quand même.
Bah, parce en vrai, il n'y a que les humoristes qui continuent de parler de Manuel Valls.
Ouais. Moi, j'en parle plus trop parce qu'il a plus d'actu. Non,
avec un actu comme ça, il devrait jamais revenir se présenter nulle part.
Écoutez, si on arrête de se présenter dès qu'on a fait un financement illégal de campagne, il ne restera pas grand monde, hein, mon ami.
C'est pas faux.
Oui, vous êtes fataliste avec ça.
Mais non, je ne suis pas fataliste. Je dis qu'à un moment, voilà.
Alors, à hauteur de combien on peut financer illégalement ?
On est entre les anglo-saxons et les latins. C'est-à-dire que, on a une petite rigueur, mais quand même, quand il y a un billet qui passe, c'est un billet. C'est un billet. Voilà, bon.
Écoute, je vous rappelle que vous venez faire l'accent séfarade en disant
mais ça n'a rien à voir, parce que je parlais du sud de l'Europe.
Oui, je sais.
Eh bien, maquet, c'est un billet.
Ah, voilà, vous faisiez l'italien.
Mais oui, je faisais l'italien.
Et vous voyez, vous seriez passé pour un antisémite parce que vous êtes un mauvais imitateur.
Je suis juste un anti-italien, en fait. Donc ça va.
Oui, ça va.
Ça, c'est possible. Depuis que l'extrême droite est passée, maintenant, en plus, on peut s'en moquer de ces gens-là.
Vous avez raison, les règles changent.
Alors, Clément Beaune. Mais non, c'est tout sur Valls. Clément Beaune, par contre, vous connaissez Clément Beaune.
Je le connais, lui, j'adore.
Ce petit ministre. Eh bien, il parie sur Paris.
Ah non.
Ouais, très, très bon jeu de mots de la part du Point. Les mecs ont bossé. il n'est pas content. Et il voudrait être le candidat macroniste à Paris au municipal de 2026. Lui est déjà en 2026. Hein. Il y a 4 ans d'avance.
Il y a un peu la poisse sur les candidats macronistes à la mairie de Paris.
Déjà, il qualifie d'état des rues de Paris, je le cite, de dégueulasse. Voilà, il prend position. Il est en train de se faire une équipe gagnante, une équipe de winners. Il s'est rapproché d'Olivia Grégoire,
qui est en général la
qui est toujours dernière au baromètre des MFM politiques. Et là, il a récemment déjeuné avec un ponte, Pierre-Yves Bournazel, ex-député parisien, proche d'Édouard Philippe, mais qui ne fait plus rien aujourd'hui. Donc, on sent vraiment que
les
là,
Avengers.
Il est... Bon, voilà, c'est les Avengers de la loose, mais. Pour l'instant, il a personne. Hein. Pour l'instant, il est encore sur son équipe B. Oui. Mais si ça prend, il peut se faire une équipe A. Ouais. Donc, courage Clément Beaune, courage. Et je vais finir...
On peut se dire qu'Anne Hidalgo va continuer à faire des pistes cyclables, je pense.
Voilà, je vais finir sur une qui m'a touché, parce qu'indirectement, elle parle de vous, Alex. Vous ne vivez plus en Belgique. Selon Valeurs Actuelles, vous vivez en Belgikistan. La Belgikistan, ce concept nouveau, où finalement, j'apprends en lisant Valeurs Actuelles, que qui a pris les rênes du pays, ce sont les Marocains. Les Marocains vous contrôlent, mon petit bonhomme. Fait moi le malin.
C'est fascinant. Hein,
quand Mohamed V va arriver et va dire, écoutez, moi vos trucs, le Parlement, tout ça, je dissous et c'est moi qui prends la tête du truc, vous allez être bien. Parce qu'on nous annonce quoi ? Eh bien qu'il y a quand même 800 000 Marocains en Belgique. Et là, eh bien, Valeurs Actuelles s'interrogent. Ils ne comprennent pas parce que vous n'avez pas de passé de colon au Maroc. Pourquoi tous ces Marocains sont venus?
Ah, moi je peux vous le dire,
simplement.
C'est travailler dans les mines.
Je sais, moi.
Après les Polonais, comme Vizorek.
Et les Italiens. On se souvient de Frédéric François, notamment.
Frédéric François lui-même.
Voilà.
Frédéric Baracchiato. Frédéric François, c'est pas son
nom. Et ses parents étaient, je crois, mineurs.
Du côté de Liège.
Oui, voilà. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus comme ça.
Et les Marocains sont la dernière vague d'immigration.
Et ben voilà. Mais alors, Valeurs Actuelles n'a pas trouvé la solution, n'a pas trouvé la réponse à cette question.
En attendant. Vous vivez au Belgikistan. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens.
Est-ce que je terminerai...
Faites attention à vous.
Merci de...
Ça brûle, votre pays. Ça brûle.
Si c'est Valeurs qui le dit, on est tranquille. Je termine par le chasseur français.
Alors...
Regardez la couverture
Il nous reste 2 minutes,
du chasseur français.
Oui. Sanglier.
Mensuel de décembre. Sanglier.
Le rut.
Et regardez ce sanglier.
Il y a un sanglier là-bas, vos lèvres.
Oui. On dirait PPDA, mais c'est pas lui.
Non.
C'est pas lui,
non.
Le rut, c'est un bon titre.
On dirait
aussi,
surtout qu'il a bu une grosse 8-6.
Alors,
qui lui a explosé à la tête.
Oui, c'est pas faux.
C'est pas ce que ça explique. Alors, on est en pleine période de rut de sanglier. Donc, mi-novembre, mi-janvier, au cas où vous étiez pas au courant.
Si.
ce qui s'avère, c'est que le sanglier bave du groin. Il bave sur les arbres pour dire à leurs concurrents, attention, je suis plus excité que vous, si vous voulez y aller, je suis là, c'est mon quartier.
Il communique de cette manière.
C'est mon tiercart, ici c'est chez moi, et pour dire aux conquêtes potentielles, attention, préparez-vous.
Et moi je bave.
Et moi je bave plus que l'autre.
Je suis un gros baveur, moi.
Mais en fait, oui, c'est assez
le
proche.
Le roi des baveurs.
Vous voyez pourquoi, après, le féminisme a du mal. Parce que nous, on est héritiers du sanglier, si vous voulez, en droite ligne. Et donc, il faut que le sanglier tape juste, parce qu'elles ont 50 bonnes heures, les femelles sangliers. Donc vous avez 50, pendant 50 heures, allez-y à fond.
Ah, c'est tout ?
Oui.
Ah, c'est court.
Mais après, une fois qu'ils ont vraiment tout donné sur les 50 bonnes heures, ils cherchent une autre.
Le sanglier n'est
aussi
pas fidèle.
Il y a aussi de la passerelle avec nous. Et en revanche, là où il n'y a pas de point commun, c'est que la lait peut donner naissance à 4 ou 5 marcassins. Et surtout, elle peut se tourner vers personne pour la pension alimentaire. Hein. Elle doit être toute seule, l'autre, il est parti sniffer d'autres arbres. c'est quand même bien triste. Alors, je vais vous donner... Il est temps que l'émission se termine.
Oui, oui. On est tous en train de se dire ça. Et je pense les gens aussi.
Oui, mais non, mais les informations de 20 ans arrivent, hein, restez.
Oui, oui.
On va quand même apprendre quelque chose, parce que c'est aussi ça le service public. Les testicules du sanglier sont nommés les suites.
Ah.
Et du coup, bah, chez un sanglier, avoir de la suite dans les idées, ça raconte évidemment autre chose.
Et on comprend maintenant pourquoi Dominique Strauss-Kahn vivait dans des suites. Nous sommes tous des sangliers.
Voilà, voilà. Ça va bien nous aider. Ça. Voilà. Et elle va être très contente, Julia Foyce, de prendre l'antenne.
Oui,
après un truc comme ça,
cette
mon
analyse.
Dieu.
Heureusement qu'elle arrive
désolé,
derrière.
Julia.
Voilà, Julia.
Derrière
évidemment.
Le Belgiquistan et les sangliers.
Voilà,
voilà. Allez reprendre derrière ça sur France Inter. Bien joué, Pastèque.
Le mieux.
C'était la dernière.
Merci à tous, les amis.
Merci.
Oui,
là, vraiment,
merci à tous.
Il est temps que vous filiez. Salut
oui.
Lulu. Salut Tanguy. Salut les Pastèques. Vous avez encore été formidables aujourd'hui. Pas autant que ceux qui ont préparé l'émission. Mathilde Sourd, évidemment. Laurent Pauleré à la réalisation. Clément Villet et Laurent Baudouin au son et à la vidéo. Thierry Dupin aux choix musicaux. Et Tanguy s'est jeté sur le chasseur français. Ça lui promet une bonne semaine. Je ne sais pas comment on va le retrouver samedi prochain. Salut les pastèques.